Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Théo, bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Je suis ravie de vous retrouver. Là, cette fois-ci, on n'a pas trois recettes, mais on a quatre recettes. Mais vous allez voir, elles sont aussi rapides et faciles et surtout très délicieuses. Il faut juste bien respecter les ingrédients. Dans la cuisine, pas trop aussi. Vous mettez un petit peu plus de choses ou un petit peu moins de choses, c'est pas un problème. Mais avec la pâtisserie, c'est plus compliqué. Hein, on ne fait pas n'importe quoi non plus. Alors, on va voir ensemble, donc, comme à l'habitude, les ingrédients et le matériel dont on aura besoin pour les recettes de ce soir. Alors, on a prévu de faire de la tarte au potimarron avec des lardons et puis des oignons caramélisés. Donc pour cela, vous aurez besoin d'un oignon, du sel et du poivre bien évidemment, de 600 g de potiron, de 25 centilitres de crème fraîche, de semi-épaisse, d'une pâte feuilletée, de 2 œufs et 200 g de lard fumé. Au niveau matériel, on aura besoin d'un moule à tarte, d'une cuillère en bois, d'un saladier, d'un couteau, d'un fouet, une poêle, un mixeur, une casserole, un batteur fouet. Voilà, c'est pour le batteur fouet, c'est pour vous verrez, c'est et des fois c'est un peu plus pénible à fouetter, donc le batteur c'est bien. Dans d'autres recettes, vous aurez besoin de ça aussi. Quelque chose de simple qu'on ne pense pas à faire, c'est le poisson pané. Et on a choisi avec les petits légumes, un boucher de légumes. Donc pour cela, vous aurez besoin de 6 filets de poisson blanc. Voilà, les plus... En ce moment, le lieu n'est pas très très cher, donc c'est un poisson qui est facile, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel poisson blanc. Plus il est goûteux, meilleur ce sera. Voilà, et vous aurez besoin de 2 œufs, de 200 g de pain un peu rassis ou de la chapelure. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un mixeur, d'une poêle avec son couvercle, de 2 assiettes creuses et d'un fouet. Pour les bouchées de légumes, vous allez voir, rien de plus simple. Vous aurez besoin de sel et de poivre, bien évidemment, de 50 g de fromage râpé. Vous pouvez prendre de l'emmental, du comté, c'est plus goûteux, c'est plus sympa. Ou encore du parmesan, ça c'est sous vous qui voyez. 100 g de tomates cerises. Alors, je sais que c'est pas la saison en ce moment, mais vous pouvez en trouver. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez rajouter d'autres légumes, vous verrez dans la recette, je vous donne des petits tuyaux. On aura besoin d'huile d'olive et de 200 g d'épinards et 6 œufs. Pour le matériel, vous aurez besoin de 6 cassolettes. Vous voyez, moi j'utilise... Alors, vous pouvez utiliser des moules mous aussi, c'est bien. Les moules en dur, c'est plus difficile à démouler. Moi, j'utilise des cassolettes en papier, comme ça je ne me prends pas la tête. Et les gens peuvent se servir comme ils veulent. Un couteau et puis un fouet. Donc ça, au niveau matériel, pour le plat, on n'a pas beaucoup besoin de matériel. Vous allez voir, c'est assez rapide. Au niveau du dessert, on a choisi, et c'est la pleine saison, un gâteau de moelleux à la crème de marron. À savoir que ce n'est pas du marron, c'est de la châtaigne, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Deux cuillères, pour ça on aura besoin d'une grosse cuillère de farine, une cuillère à soupe de rhum ou de cognac, ça c'est facultatif, vous verrez après, 50 g de beurre fondu, 500 g de crème de marron, 3 œufs, 3 œufs montés en neige. Et puis, côté matériel, on va avoir besoin de 2 saladiers, d'une cuillère en bois, d'un moule à gâteau et d'un batteur fouet. Vous voyez, le batteur fouet revient très souvent. Côté, qui dit moelleux, dit crème anglaise. Moi, je trouvais que ça se marrait bien avec... ça se mariait bien aussi. Je ne sais pas s'ils rigolent bien ensemble, mais ça se marie bien. On aura besoin, donc, pour la crème anglaise, on aura besoin de 50 g de sucre, 50 centilitres, merci Nathalie,
de
lait demi-écrémé, une gousse de vanille et une cuillère à soupe de maïzena, 4 jaunes d'œufs Et puis au niveau matériel, vous aurez besoin d'un saladier, d'une cuillère en bois et d'une casserole et d'un chinois. Alors la crème anglaise, c'est pas la même que d'habitude. Celle-là, elle est un petit peu plus épaisse puisqu'on a rajouté de la maïzena.
Oui.
Hein? Donc voilà, c'est juste ça. Il y a différentes recettes et je vous donne différentes recettes à chaque fois de façon à ce que vous puissiez échanger. Mais le principe est le même. Vous avez pu voir que dans le gâteau moelleux, on a 4 œufs montés en neige. Et donc vous garderez bien les jaunes de façon à les utiliser pour la crème anglaise. Comme ça, il n'y a pas de gâchis. Voilà. Bien, écoutez, nous, on va commencer par la tarte au petit marron, lardon et oignon caramélisé. Alors, je vous rappelle un petit peu les ingrédients. On aura besoin d'un oignon, du poivre, du sel, de 600 g de potiron, de 25 cl de crème fraîche semi-épaisse, d'une pâte feuilletée, de 2 œufs, de 200 g de lardon fumé. Et côté matériel, vous aurez besoin d'un moule à tarte, d'une cuillère en bois, d'un saladier, d'un couteau, d'un fouet, d'une poêle, d'un mixeur et d'une casserole. Voilà. Et pour votre temps de préparation, vous aurez besoin d'une heure de préparation, dont une heure en tout. Vous aurez 25 minutes de préparation et 35 minutes de cuisson. Donc, prévoyez une bonne heure, c'est bien. Alors, on va commencer déjà par préchauffer votre four à 200 degrés. Donc, ce qui va faire à peu près un thermostat de 6 à 7. Voilà. Et vous allez placer la pâte feuilletée dans votre moule à tarte. Voilà, tout simplement. Alors, il y en a qui la piquent. Moi, perso, je ne la pique pas. Donc, c'est comme on veut. Après avoir pré-cuit le potiron et réduire en purée, donc pour le potiron, le potimarron, il suffit pour cela de l'éplucher. Alors, le potimarron, il faut savoir que ça ne s'épluche pas forcément. Vous pouvez le cuire avec la peau.
Ah bon ?
Oui. Alors, ça dépend des recettes. On verra dans les autres semaines, puisqu'on est en pleine saison du potimarron et du potiron. Mais moi, je l'épluche là, parce que vous allez voir pourquoi. Donc, on l'épluche, on enlève les parties de graines qui sont un petit peu filandreuses à l'intérieur, à la partie molle, et on coupe le potimarron en petits morceaux. C'est plein de petits, mais c'est comme ça. Et dans une casserole, vous allez faire fondre votre potimarron. Alors sans eau, donc puisque le potimarron va rendre de l'eau, donc il n'y a pas besoin de mettre de l'eau. Vous allez le faire fondre, ce qu'on appelle faire fondre, c'est le réduire en bouillie pendant 20 minutes dans une casserole avec un petit peu de beurre. Et si ça accroche, dans ces cas-là, vous rajoutez un petit peu un verre d'eau. Mais vraiment, vous y allez tout doucement. Une fois que vos 20 minutes sont faites, vous allez les mixer. Vous allez mixer une fois les 20 minutes passées et vous allez surtout laisser refroidir la purée. Voilà. Alors, une petite astuce pour la peau. Alors, moi, j'aime bien enlever la peau du potimarron parce que je la fais frire et ça me fait des chips salés.
D'accord.
Voilà, vous pouvez faire la même chose avec les graines. Vous les faites parce que ça se mange à l'apéro, la peau et les graines. Donc, vous les faites. Donc, les graines, vous les rincez bien, vous les séchez. Et puis, vous pouvez l'utiliser pour l'année prochaine pour la culture.
Oui.
Vous mettrez ça dans des pots en terre et puis au bout de 2-3 jours, au bout d'une semaine, vous allez avoir des feuilles. Et puis, dès que vous avez 3-4 feuilles, vous le mettez dans le jardin. Alors, ça se plante au mois de mai. Voilà, au mois de mai. Donc, vous pouvez faire vos semis à couvert donc chez vous au mois de mars. Mois de mars tranquille et puis attendre que ça grossisse, mars-avril, et puis en fin avril, début mai, vous mettez ça au jardin et vous avez le potimarron qui va arriver. Voilà, dans la même saison que le potiron. Exactement la même chose. Alors, c'est une plante qui file beaucoup. Donc, voilà, il faut la pincer à trois feuilles. Voilà, quand vous avez trois grosses feuilles qui arrivent et vous voyez le fruit apparaître, enfin le légume apparaître, qui fait une petite fleur et une feuille, il faut savoir qu'il y a des fleurs qui n'auront pas de légumes.
Oui, il y a les mâles et les femelles.
Voilà, et il y aura des fleurs. Au bout de ces fleurs, vous allez avoir une petite boule rouge, enfin jaune-orangé. Ouais. Et là, il faudra compter trois feuilles et vous pincez. Ça évite que ça court dans tous les sens.
Pincer avec un ongle, ça
suffit ? Oui, pincer entre les doigts, ça suffit.
Ah, d'accord.
C'est comme le potiron, c'est creux et c'est plein d'eau à l'intérieur. Donc, à partir du moment où vous l'avez pincé, l'eau va s'arrêter, la sève ou l'eau, hein, peu importe, va s'arrêter et va stopper la croissance.
Loin,
mais ça va faire une autre tige et ainsi de suite. Donc, si vous ne faites pas ça, mais ça va être une catastrophe.
Ouais.
Ah bah moi, je ne l'ai pas fait cet été. J'en ai eu partout, sauf qu'ils sont tout petits. Et plus vous allez faire court, plus vous allez avoir des potimarrons qui vont être plus gros.
Ouais.
Voilà. Bon, c'est juste un petit détail.
Ça, c'est bon à savoir.
Donc je reviens. Mais moi, cultivation, c'est un nouveau terme. Bon, vous chercherez dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Alors, non, mais la planter, voir le légume pousser et manger ce qui est de notre jardin, même si vous avez un petit jardin, même dans des bacs. Moi, dans des bacs à fleurs, j'ai fait ça quand j'étais en appartement, mais je me régale. Je me régale. Et quand apparaît le potimarron ou le potiron, vous mettez une planche de bois pour éviter qu'il soit en contact avec la terre. Ça évite toutes les saloperies, les petites larves de limaces qui viennent bouffer votre truc. Et ça évite que ça prenne trop d'humidité. Donc, sur un balcon, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de raison, quoi. Et il suffit que ça soit bien exposé. Voilà. Donc, je reviens sur mes chips salés pour l'apéro. Et vous pouvez faire la même chose donc, avec vos graines. Vous les séchez bien, vous les lavez bien, vous enlevez toutes les parties filandreuses et vous les passez au four grillé. Et à la sortie du four, vous les salez un petit peu ou vous les mettez dans la friteuse si vous voulez. Et vous les salez à la sortie du four ou à la sortie de la friteuse. Et vous allez voir que c'est génial. Et vous mangez ça, ça se mange. Et si encore vous voulez régaler les oiseaux, vous les gardez, vous les donnez aux oiseaux. Et vous allez voir, ils vont se faire un régal de ça.
D'accord.
Donc les graines ne se gênent pas. Se jette pas. Voilà. Donc, on reprend notre... on a fait notre purée de potimarron. Dans un saladier, on va prendre... Donc, on va mélanger deux jaunes d'œufs avec la crème. On va saler et poivrer. Et puis, après, on va incorporer notre purée de potimarron, qu'elle soit froide ou tiède, mais pas chaude. Hein, parce que sinon ça va cuire les jaunes et ça va vous faire quelque chose de granuleux. Ensuite, on va battre les œufs en neige, donc qu'on a mis de côté, hein, les œufs en neige. Et puis, on va, quand ils sont bien fermes, on les rajoutera gentiment, comme une mousse au chocolat, gentiment pour éviter que les blancs neige retombent à la préparation qu'on aura fait avec les deux jaunes, la crème, le sel et le poivre et le potimarron. Voilà. Après, c'est pas fini. Dans une poêle, on va faire revenir nos oignons et nos lardons à feu vif. Il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse puisque vous avez la matière grasse du lardon. Donc, vous allez voir, vous les faites légèrement caraméliser pendant 5 minutes. Hein, déjà, ils vont devenir un petit peu translucides, les oignons. Et puis après, vous allez voir, vous les faites légèrement griller et caraméliser. Et voilà, l'oignon est quand même un légume qui est un petit peu sucré. Donc, c'est ça qu'on va aller chercher dans l'oignon, c'est le caramel de l'oignon. Un petit peu confit, d'ailleurs. Une fois que tout est cuit, la mise en place, donc la pâte, elle est dans la tarte. On va mettre au fond les oignons les oignons et les lardons. Alors, mettez-les un petit peu tièdes, hein, pas chaud, parce que sinon ça va ramollir votre pâte. Et puis vous versez la préparation de potimarron, œufs et crème avec les blancs en neige dedans. Et puis vous enfournez pendant 35 minutes à 200 degrés, à thermostat 6 à 7. Voilà, une tarte est prête et vous pouvez la servir avec une salade d'hiver. Vous avez des feuilles de chêne en ce moment qui sont super bonnes, qui ont une tendresse qui ira bien avec. Si vous préférez une salade un petit peu plus poivrée, ben ça sera la roquette. Voilà, après c'est suivant ce que vous aimez, ce sera parfait. Voilà, alors... Si vous la servez avec une salade, ça sera le plat principal. Pour le soir, ça peut être sympa. Si vous choisissez en entrée, ça sera plus petit. Et puis, dans ces cas-là, on ne prendra pas la salade. Si vous êtes des gros mangeurs, rajoutez la salade, bien évidemment. Voilà. Mais je pense qu'on a une petite pause. Eh bien, on se retrouve tout de suite.
Je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Souvent j'ai fait des blackouts trop alcoolisés. J'ai fait couler des larmes et ça je préfère oublier. Mais là j'ai pas décidé. Depuis que tu m'as quitté, j'ai peur de tout oublier. D'oublier qu'on s'est aimé. L'odeur de tes draps froissés s'efface petit à petit. Et quand on me demande si je te connais, moi je sais plus dire oui. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Moi je veux pas que le temps passe. Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mes potes me disent de tourner la page et d'avancer. Mais quand le film est beau, je veux encore le regarder. Chant contre chant, j'oublierai notre premier film. Ça floutera les plans de nos scènes de cul dans la cuisine. Moi, je suis un peu brisé. Toi, t'es un peu triste. Tout va se réparer. J'oublierai même que t'existes. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi, je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Moi je veux pas que le temps passe.
Moi je veux pas que le temps passe.
Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface.
Jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Bien, et bien nous revoici. Donc avant la coupure, on parlait de potimarron. Et je pense que Nathalie, tu as peut-être une histoire à nous raconter sur le potimarron.
Ouais, une grosse histoire, une longue histoire. Les potimarrons, c'est un groupe de cultivars eurasiatiques du potiron. C'est une plante d'origine méso-américaine arrivée dans l'ancien monde lors des échanges colombiens. Ils auraient été introduits au Japon par les navigateurs portugais. Et malgré leur implantation actuelle dans la gastronomie française, ils n'auraient gagné l'Europe que depuis le Japon, que tardivement, on fait une tarte, mais pas à ce point-là. Ce serait une famille japonaise qui aurait apporté ce légume en France en 1957 seulement. Ces premiers potimarrons, appelés alors potiron doux de Hokkaido, se sont rapidement et largement diffusés dans les jardins d'Europe. Et c'est à partir de ce dernier que se développe la variété appelée potimarron français, qui est aujourd'hui une des plus cultivées dans les jardins potagers, avec la variété, les variétés japonaises comme les potirons. Les potimarrons peuvent aussi être consommés en potage, au four, avec de l'ail, frits, en tourte ou en purée. À la différence du potiron classique, il n'est pas nécessaire de retirer la peau, donc tu le disais tout à l'heure, du potimarron avant la cuisson. Il peut aussi être consommé cru. Les graines peuvent être conservées et grillées pour l'apéritif, tu l'as dit aussi. Les potimarrons sont à l'origine une catégorie de curry kabocha, potiron marron en japonais, créé au Japon à partir des seiyo kabocha, donc courge buttercup. Au Japon, on trouve les curry kabocha de nombreuses couleurs, bleu, noir, gris, rouge, blanc, orange. Certains ont une forme plus ronde, mais tous ont une saveur très proche de notre potimarron. Parmi ceux-ci, on trouve normalement la delica, ebisu ou la chestnut, particulièrement appréciée des gastronomes. Alors, comme toutes les cucurbita maxima, ainsi que les autres courges cucurbita pepo, cucurbita moschata, cucurbita mixta, il est d'origine américaine. Le centre maximal de diversité des cucurbita maxima se trouve dans les Andes. Mais des recherches assez récentes proposent plutôt une origine mésoaméricaine et n'ont donc été introduits dans l'ancien monde qu'après la découverte des Amériques par Christophe Colomb en 1492. Un peu d'histoire. En l'occurrence, les cabocha, dont fait partie le potimarron, aurait été introduit au Japon par les navigateurs portugais en 1541, qu'ils auraient amené avec eux à partir du Cambodge. Une autre hypothèse suggère que les Japonais auraient créé les cabocha à partir de courges qui viendraient de Chine. Il fait partie des variétés sélectionnées en Extrême-Orient depuis plusieurs siècles, en particulier sur l'île septentrionale de Hokkaido au Japon. Son importation française est plus récente, elle a été un grand succès, parce que en France, on aime beaucoup, beaucoup ça. Les variétés portant le nom commercial de potimarron sont notamment Ushiki Curry, Akaguri, Red Curry, potimarron français. Elles ont un aspect semblable, une forme de toupie rouge ou orange de 1 à 3 kilos. Elles ont aussi toute une saveur douce, un goût prononcé de marron et une chair épaisse et particulièrement crémeuse.
Merci Nathalie. On voyage, on est dans l'Asie là, ouais. Un peu Asie, vraiment partout. Hein. C'est chouette. Moi, est-ce que tu savais que c'était un japonais
d'origine ? Absolument pas. Moi, j'aurais pensé plutôt Sud-Europe.
Eh bien, voilà. Donc, comme quoi, hein, c'est bien de faire un petit peu d'histoire. Et puis, ça nous rapproche de Christophe Colomb en 1492. Oui. Voilà. Donc, c'est de l'histoire. On ne fait pas que manger et que... on a aussi beaucoup de culture à Infini. Merci Nathalie encore pour ces belles histoires que tu nous racontes chaque soir. On va continuer nos recettes par le poisson pané et les bouchées de légumes. Pour ça, je vous rappelle un petit peu les ingrédients. Alors, il ne faut pas grand-chose, il faut juste 6 filets de poisson blanc, donc comme je vous l'ai dit, hein, vous avez... alors moi, j'aime bien faire ça avec la perche du Nil, c'est un poisson qui est peu cher et qui est très fin, donc qui se cuit rapidement, et puis vous pouvez le faire en roulé, vous pouvez le faire... le rouler le poisson, ça peut être bien. Comme ça fait un petit peu torsadé des boulettes. Et vous faites la chapelure pareil, exactement pareil. Sauf qu'il faut le rouler. Et pour que ça tienne, vous mettez un pic.
Voilà. Un cure-dent
Un cure-dent, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Ou alors, je vous donne une astuce qui n'est pas prévue au programme. Quand vous avez du filet comme ça, qui est peu épais, vous pouvez le rouler dans un film étirable, ouais. Et vous le mettez au congèle.
D'accord.
Une fois qu'il est roulé au congèle, donc 24 heures, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc, vous le sortez du congèle et vous allez le tremper dans la chapelure, dans l'œuf, dans la chapelure, et vous aurez des petites boulettes, voilà, de poisson frit. Mmh. Ça peut être fait comme ça, ça peut changer aussi d'aspect. C'est bien, je trouve que c'est joli, et dans une assiette avec un petit peu d'épinards, un petit peu de légumes, c'est super joli et c'est appréciable. Et pour les enfants qui n'aiment pas manger du poisson, le poisson pané, c'est mieux, oui. C'est quand même sympa. Sauf que ça, là, on n'est pas dans du poisson carré, on est dans du poisson qui a une forme. On est d'accord. Donc, je reviens sur mes ingrédients. Donc, 6 filets de poisson blanc, 2 œufs, 200 g de pain un petit peu rassis, ou si vous n'avez pas, de la chapelure, c'est aussi simple, sachant que le pain rassis, on va le mettre en chapelure. Et côté matériel, on aura besoin d'un mixeur, d'une poêle avec son couvercle, et de 2 assiettes creuses et un fouet. Vous aurez besoin de 10 minutes de préparation et 3 minutes de cuisson. Alors là, si vous me dites j'ai pas le temps, 15 minutes en gros, vous avez le poisson pané hein, quand même, et cuit dans votre assiette. Donc dans un premier temps, on va sécher les... Alors bien souvent, c'est un petit peu humide, les filets de poisson, donc vous les séchez bien, alors, ou dans une feuille d'essuie-tout, ou dans un torchon propre. On est bien d'accord. Vous allez mixer le pain. Hein, je vous rappelle que moi, j'utilise le pain rassis. J'en ai pas souvent, mais quand j'en ai, à chaque fois, je fais de la chapelure, et la chapelure, je la mets dans une boîte, ça se conserve. Très bien.
On peut faire avec des biscottes aussi.
On peut le faire avec des biscottes. Tout ce qui est de toute manière qui est un peu dur.
Oui, c'est ça.
Et si jamais il vous reste des miettes, pensez aux miettes qu'on a sur la table, plutôt de les ramasser avec une éponge et les foutre en l'air. Ou vous les donnez aux oiseaux. Moi, j'aime bien faire mes petits oiseaux. Et ou alors, vous les mettez dans la boîte à chapelure. Hein. Oui. Si vous reste un petit peu de brioche mélangée, ça vous donnera un petit coup sucré à votre chapelure. Ça peut être aussi sympa. Donc voilà, c'est là ce soir on est en plein d'astuces. Donc vous allez battre vos œufs. Donc vous avez mixé votre pain dans une chapelure. Alors ou vous la faites bien épaisse, un petit peu plus croustillante parce que vous voulez qu'il y ait des petits grains dessus, ou vous la faites plus fine, c'est comme vous voulez et c'est comme vous le sentez. On va battre donc les jaunes d'œufs et puis on va aller tremper nos filets de poisson dans l'œuf. Et puis donc on les égouttera légèrement et on les recouvrira de chapelure. Si vous voulez une panurge un petit peu plus épaisse, vous recommencez deux fois. C'est-à-dire que vous trempez dans l'œuf, vous trempez, c'est comme l'escargot, hein. Et la souris verte, on la trempe dans donc on trempe le filet de poisson dans l'œuf, dans la chapelure, on recommence dans l'œuf et dans la chapelure, comme ça vous avez une panurge un petit peu plus épaisse. Vous allez faire chauffer dans une poêle avec un petit peu de beurre et un petit peu d'huile. Je mélange les deux pour avoir le parfum du beurre sans qu'il noircisse trop vite. C'est pour ça hein, que je mélange les deux. Et puis, moi, j'aime bien le beurre dans la cuisine, c'est sympa, mais l'huile d'olive, c'est encore mieux. Et vous faites revenir vos filets 1 minute et demie de chaque côté. Alors, tout dépend de l'épaisseur, mais ça va très, très vite. Donc, voilà, 1 minute et demie, vous voyez, recto, verso, tout dépend de l'épaisseur. Et vous servez aussitôt. Si vous le faites en avance, vous allez les les faire à la poêle. Vous les mettez dans un plat à gratin et au four, en maintenant avec toujours un papier d'alu par-dessus ou un couvercle si vous avez. Mais en général, les plats à gratin n'ont pas de couvercle. Donc mettez du papier alu et vous allez voir, avec une petite noisette de beurre par-dessus, vous faites réchauffer tranquille. Voilà, le poisson pané est une bonne recette anti-gaspi pour le pain rassis, en fin de compte. Encore une fois, gardez votre pain rassis, ça peut toujours servir. Alors, attention pour le poisson, de ne pas trop le faire cuire, parce que sinon il devient sec et filandreux, et c'est franchement pas bon, un poisson pané. Il faut vraiment... Alors, choisissez, si vous avez peur que ça fasse trop sec, choisissez un poisson qui est un petit peu plus gras et puis un petit peu plus épais, comme ça vous le cuirez al dente, on va dire. Voilà. En ce qui concerne les bouchées de légumes que l'on va servir avec, je vous rappelle les ingrédients. Vous aurez besoin de sel, de poivre, de 50 g de fromage râpé, donc ou du gruyère ou du comté, voilà, pour ceux qui aiment le comté, de 100 g de tomates cerises, de l'huile d'olive, de 200 g d'épinards, de 6 œufs et de, au côté matériel, vous aurez besoin de 6 cassolettes en papier, d'un couteau et d'un fouet. Il vous faudra pour cette préparation 10 minutes de préparation et 15 minutes de cuisson. Donc là, pour ce plat-là, aussi bien pour le poisson pané que les légumes, en à peine une demi-heure, vous avez fait votre repas. Et vous avez mangé équilibré. Vous allez aussi préchauffer votre four à 180 degrés et déposer les petits morceaux d'épinards dans vos cassolettes. Donc ça, c'est rien de plus simple, on ne fait pas cuire avant. On dépose les épinards dans les cassolettes en papier. Et puis après, vous allez mettre des tomates cerises dedans, coupées en deux. Parce que les tomates cerises, c'est ce que je vous disais au départ, c'est pas forcément la saison. Vous allez en trouver, mais elles sont horriblement chères. Vous allez pouvoir trouver de la courgette, où vous allez pouvoir trouver des carottes. Et bien dans ces cas-là, vous râpez les courgettes et les carottes et vous les mettez avec une petite pincée, vous rajoutez, puisque les cassolettes ne sont pas bien grandes, vous rajoutez dedans, ça fait toujours de la couleur. L'idée, c'est d'avoir deux couleurs différentes. La carotte peut être remplacée par la tomate cerise peut être remplacée par la carotte, mais il faut qu'elle soit râpée, c'est mieux. Ensuite, vous allez battre vos œufs avec le fouet. Vous allez rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Vous pouvez rajouter du paprika si vous le souhaitez. Vous pouvez rajouter... qu'est-ce que je rajoute moi dans... Oui, de la noix de muscade. Un petit peu râpé dessus. Voilà, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez mettre du persil aussi ou de la coriandre dessus. Ça donne de la couleur et ça donne un parfum très agréable. Et c'est super bon. Et vous remplissez donc de la préparation œuf, sel, poivre et épices que vous avez rajouté sur vos cassolettes, donc sur votre épinard, tomate, carottes, râpées, tout ce que vous avez mis, et vous enfournez 15 minutes à 180 degrés. Et vous voyez, en un quart d'heure, vous avez fait un repas complet. Enfin, un plat. C'est vraiment pas compliqué. Voilà. Et pour ceux qui n'aiment pas les épinards, il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas forcément ça, et même des adultes. Et vous faites ça avec n'importe quel légume. C'est vraiment pas compliqué, les bouchées de légumes. Et ça, en apéro, vous choisissez des petites cassolettes plus petites. Et en apéro, c'est super bon. Voilà. C'est des idées comme ça. Alors, Nathalie, je pense que tu peux nous dire sur un ingrédient dont on parle souvent,
ouais,
dans nos recettes, parce que voilà, c'est un anti-gaspi, c'est la chapelure.
Oui, alors la chapelure, c'est en fait du verbe de chapeler, ce qui veut dire réduire en poudre. C'est un produit culinaire constitué donc de miettes plus ou moins grosses, de pain ou de biscottes. Originairement, elle est constituée de pain sec ou séché au four, puis écrasée avec un pillon dans un mortier ou passée dans sous le rouleau à la pâtisserie. On distingue traditionnellement la chapelure blanche, faite de pain de mie de pain pardon, anglais, et la chapelure blonde, faite de croûte de pain ordinaire. On trouve dans le commerce de la chapelure en paquet, qui est alors souvent en sous-produit des boulangeries industrielles. Enfin, je trouve pas très bon, moi, mais c'est mon goût personnel.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors ça, c'est une... Enfin bon, après, on ne sait pas ce
les
qu'il y a dedans.
Les goûts et
les
couleurs,
hein.
En plus, ouais, c'est ça. Puis c'est tellement simple à faire. Je vous donne une expression, n'avoir plus de chapelure sur le jambonneau, qui signifie n'avoir plus de cheveux, être chauve. Bon, c'est drôle, hein. C'était une petite expression comme ça. Une histoire maintenant sur les épinards. Alors, l'épinard, c'est une plante potagère, annuelle et biannuelle, de la famille des Chenopodiaceae, hein, ou Amaranthaceae. Tout ça, c'est du grec ou du latin, je ne sais pas. Selon les classifications originaires d'Iran, il tire son nom du persan Asfanag. Il est aujourd'hui cultivé dans toutes les régions tempérées pour ses qualités nutritionnelles. Il est célébré sur les bandes dessinées de Popeye, ouais, tout le monde s'en souvient, comme un légume riche en fer qui donne de la force aux héros, bien qu'en réalité, sa teneur en fer ne soit pas particulièrement élevée. Donc c'est une légende, mais en fait, c'est pas réellement le cas. Contrairement à la grande majorité des plantes à fleurs ou des plantes utilisées comme légumes, l'épinard est une plante dioïque, c'est-à-dire que les pieds des pieds différents portent soit des fleurs mâles, soit des fleurs femelles. La pollinisation se fait par le vent, qui est l'anémogame. Le pollen, très petit et léger, se transporte sur des kilomètres. Cela est corrélé au fait que les fleurs elles-mêmes, petites et vertes, n'attirent pas les insectes. Ah oui. Ses feuilles lisses ou cloquées sont d'un vert foncé. Le lieu de domestication de l'épinard serait l'Asie centrale, dans les régions des actuels Afghanistan et Tadjikistan, d'où il aurait ensuite gagné la Perse vers le VIe siècle. Il est introduit en Europe au XIIe siècle par les Arabes et qui le cultivent dans le sud de l'Espagne. On ignore si son arrivée en France s'est faite par le biais ou par ce biais-là ou par celui des croisades. Toujours est-il que le mot épinarde est attesté en français en 1256. Au Moyen Âge, il est mentionné dans les livres tels que le Ménagier de Paris ou le Viandier est partout mangé au moment du carême, car il se récolte tôt dans l'année. Il a été propulsé par Catherine de Médicis à la Renaissance. Au XVIIe siècle, sa culture remplace celle de nombreux autres légumes tels que la roche ou la livèche. Je ne sais même pas ce que c'est ces légumes-là. En France, il reste pourtant longtemps mal aimé. Et oui, même si des auteurs comme Stendhal ou Alexandre Dumas cherchent à le réhabiliter au XIXe siècle. Donc voilà, toute l'histoire de l'épinard.
Moins une partie. Ben écoute, ouais. On se couchera moins bête ce soir, ouais. Je pense. Hein. Mais c'était important parce que, voilà, il faut savoir que l'épinard, ça pousse partout. Et si dans vos jardins, je reviens là-dessus, si vous avez des insectes dans vos jardins, eh ben vous mettez un pied d'épinard là où il y a les insectes et vous verrez qu'ils viendront plus. Et les autres légumes que vous ferez pousser à côté, il n'y aura pas d'insectes. Donc ça évite tout
ce qui est... C'est un repousse bestiole.
Voilà, ouais. Ça évite que vous mettiez n'importe quoi dans vos jardins et que vous mettiez des insecticides, oui, à tout berzingue. Et voilà, moi je laisse la nature faire et elle est belle, notre nature. Voilà, mais écoutez, je pense qu'avant de passer au dessert, on va faire une courte page de musique, Théo. Hein, je t'en prie.
On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Et ici l'amour c'est beaucoup beaucoup trop superficiel. On fait que te répéter, un jour il tombera du ciel. Et c'est toujours le même discours, de belles paroles, bientôt vous serez à court. Non, aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve, que plus rien ne bouge sauf nos lèvres, je m'élève. Et aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve, d'un amour n'existant pas, qui pourtant m'attrustera. Docteur, un jour je marierai un ange, on fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Docteur, un jour je marierai un ange, on fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change, ne change. Ici l'amour c'est beaucoup beaucoup trop conceptuel. On fait que te répéter, les hommes, les femmes sont si cruels. Jamais comme au cinéma, décidément on est moins beau loin des caméras. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve, que plus rien ne bouge sauf nos lèvres, je m'élève. Hey. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout et je rêve, d'un amour n'existant pas, qui pourtant m'attristera. Docteur, un jour je marierai un ange, on fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Docteur, un jour je marierai un ange, on fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change, ne change.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, nous revoici et nous allons voir ensemble le dessert de ce soir et qui est de saison, puisque on va faire un moelleux à la crème de marron. Mmh. Alors, pour cela, vous aurez besoin. Alors, j'aime bien Nathalie qui fait.
J'adore, c'est mon péché mignon, hein, la crème de marron.
Alors, moi, je cours pas après. Franchement, je cours pas après. Et puis, voilà. Mais bon, il y en a qui aiment. Et déjà, quand il faut les ramasser, enfin, quand vous faites de la châtaigne, hein, grillée, voilà. Et c'est bon, mais déjà, la ramasser, ça me gonfle. Voilà. Mais je le fais parce que. Voilà, je sais qu'à la maison, ils aiment bien, donc bon, je me sacrifie, on va dire. Alors, je vous rappelle un petit peu les ingrédients de cette recette. On aura besoin d'une grosse cuillère de farine, une cuillère à soupe de rhum ou de cognac, tout dépend de ce que vous avez, 50 g de beurre fondu, 500 g de crème de marron. Donc vous avez, pour ça, hein, vous avez des boîtes, hein, de conserve, c'est aussi bien, ou vous les avez en bocaux aussi. Vous avez besoin de 3 œufs et 3 œufs montés en neige. Pour le matériel, on aura besoin de 2 saladiers, une cuillère en bois, un moule à gâteau et un batteur. Alors moi j'aime bien prendre des moules un petit peu qui ont des reflets, comme ça quand on les démoule ça fait toujours un peu plus joli sur la table. Voilà, donc avec des pétales de fleurs ou des stries, enfin bon, voilà, vous avez des tas de moules. Si vous avez un moule plat, vous avez un moule plat, c'est pas bien grave, hein, ça fera l'affaire quand même. Alors, pour cette préparation, vous aurez besoin de 20 minutes de préparation et 30 minutes de cuisson. Donc, dans un premier temps, on va commencer donc dans un saladier avec un fouet. On va mélanger les ingrédients les uns après les autres. C'est-à-dire, on va mettre la farine, le rhum ou le cognac, le beurre fondu, la crème de marron et avec un batteur électrique, vous allez monter donc. D'un côté, on a un saladier avec les ingrédients que je viens de vous dire, donc c'est-à-dire la farine, l'alcool, le beurre fondu et la crème de marron. Et de l'autre côté, vous allez monter les blancs en neige. Vous gardez bien vos jaunes, puisqu'on va en avoir besoin pour la crème anglaise. Et vous montez tout ça. Une fois que vous avez tout monté, vous allez tout mélanger plutôt. Vous allez mettre dans un moule à gâteau que vous aurez préalablement beurré ou fariné. Ou si vous êtes feignante comme moi, vous mettez dans le moule un papier de cuisson. Voilà, et comme ça, il prendra la forme qu'il voudra. Vous pouvez prendre... Alors moi, je vous donne une autre petite astuce. J'aime bien faire ce genre de choses-là. C'est-à-dire que je prends mon papier de cuisson, je le mets en boule, comme je le chiffonne, et je le mets dans mon plat. Et quand je vais démouler, en fin de compte, mon gâteau, il aura pris toutes les pliures du gâteau. Mmh. Voilà, ça fait original, je me sers de moule plat, et ça me fait un gâteau original. Voilà, ça c'est une petite astuce. Si vous avez un moule plat et il faut bien beurrer et fariner pour le démoulage, c'est quand même beaucoup mieux. Ça évitera que ça accroche. La préparation donc, que vous avez fait, bien évidemment, vous mélangez votre blanc en neige avec la préparation farine, rhum, beurre fondu et crème de marron. Vous mélangez bien doucement avec une cuillère en bois ou une spatule sans faire retomber les blancs en neige, et c'est important. Et quand vous avez fait ça, vous enfournez 30 minutes à 180 degrés, c'est-à-dire à peu près thermostat 6. Et voilà, vous attendez que ça refroidisse avant le démouler. C'est important. Donc vous voyez, là on a fait 30 minutes, 20 minutes de préparation et encore. Hein,
c'est très simple. Hein,
c'est ouais. Mais il n'y a rien de plus simple. Et plus vous allez battre les œufs en neige ferme, plus votre gâteau sera moelleux. Et c'est au mélange de la première préparation avec les blancs, vous allez y aller délicatement. Oui. Parce que ça peut retomber assez rapidement.
Comme pour une mousse au chocolat, en fait.
Exactement, c'est ouais. Exactement ça. Alors, vous pouvez le recouvrir de chocolat fondu. Si vous êtes gourmand, mais vous pouvez aussi le déguster nature, bien évidemment, ou avec une crème anglaise, et c'est la recette que j'ai choisie ce soir. Alors, vous pouvez aussi la recouvrir de crème anglaise. Parce que si vous la faites un peu épaisse, cette crème anglaise, et que votre gâteau est un peu tiède, au moment où vous allez faire votre crème anglaise et au moment où elle est finie, avant de la faire refroidir, vous la mettez sur le gâteau et elle va glisser tout le long du gâteau et voilà. Et elle va continuer à se gélifier, enfin se durcir. C'est pas durcir parce qu'elle se durcit pas, s'épaissir. Voilà, je cherchais le terme. Voilà, donc ça c'est des petites astuces que je vous donne en plus. Voilà. Après, soyez créatifs. Vous pouvez faire ça avec un coulis de fruits rouges, sauf qu'on n'est pas dans la saison du fruit rouge. Donc ça sera avec des fruits surgelés et voilà, on fait avec ce qu'on a et en général. J'essaye de vous trouver des recettes de saison, c'est beaucoup mieux et au moins on mange équilibré et on est dans la recherche de fruits de saison. Alors, pour la crème anglaise, on aura besoin de 50 g de sucre, 50 centilitres de lait demi-écrémé, d'une gousse de vanille, d'une cuillère à soupe de maïzena, de 4 jaunes d'œufs, et puis au niveau matériel, d'un saladier, d'une cuillère en bois, d'une casserole et d'un chinois. Vous aurez besoin de 15 minutes pour la préparation, grosso modo, et de 10 minutes, grosso modo, de cuisson. Dans un premier temps, vous allez porter à ébullition votre lait. Et vous allez y infuser votre gousse de vanille. Alors moi, j'aime bien, c'est que avant de la mettre, ma gousse de vanille, je la coupe en deux et j'enlève les graines.
Dans le sens de la longueur.
Hein. Dans le sens de la longueur, on est bien d'accord. J'enlève les graines au couteau en raclant le couteau et après je laisse dedans la gousse et les graines. Voilà, parce que les graines, elles partent pas forcément dans le lait, et là, vous avez toutes les graines. Vous laissez à peu près infuser 10 minutes, de façon à ce que votre lait soit vraiment vanillé. Et puis après, vous allez enlever les gousses de vanille, vous les récupérez. Si vous ne les avez pas grattées avant, ben vous les grattez. Si vous les avez grattées avant, vous pouvez les gratter, si jamais il y a encore besoin, mais il n'y a pas besoin. Et alors, la gousse de vanille, quand vous l'avez fait tremper dans le lait, vous ne la jetez pas, parce qu'elle va encore avoir le parfum de vanille. Vous la laissez sécher sur un papier sopalin, enfin un papier essuie-tout, plutôt.
Absorbant.
Absorbant. Et vous allez la mettre dans le sucre. Et oui, vous allez voir que
tu
votre
nous avais déjà
sucre,
donné cette astuce.
Votre sucre va garder ce petit goût de vanille qui est derrière, et c'est super sympa. Bon, après, c'est que vous qui voyez. Elle va sécher dans le sucre. Donc, on va fouetter activement la force et courage pour les jaunes d'œufs avec le sucre. Il faut vraiment que le mélange soit un petit peu blanc, hein, donc jaune pâle, plutôt pas blanc, mais jaune pâle. Et ensuite, vous allez incorporer petit à petit le lait. Vraiment, vous y allez doucement, parce que si vous y allez trop vite, ça risque de cuire le jaune et ça risque de faire des petits grains, et c'est franchement pas génial au niveau de la crème anglaise. Et surtout si vous le mettez dans l'assiette après, ça fait des granulés. Et puis vous allez ajouter la maïzena. Donc la cuillère de maïzena dans la casserole, et une fois que votre préparation elle est un petit peu, vous sentez qu'elle épaississe, vous tout de suite vous l'enlevez et vous passez au chinois, et vous allez réchauffer le mélange, donc remettre à chauffer le mélange à feu moyen sans cesser de la remuer, et vous allez guetter le moment où ça va s'épaissir, et une fois, sans faire bouillir, si vous faites bouillir c'est mort,
et ça va très vite avec
et ça
maïzena.
Va très très vite, donc avec la maïzena ça va très vite. Donc je vous dis la petite astuce, je vous redis la petite astuce pour savoir si la crème anglaise est cuite, c'est-à-dire que vous plongez votre cuillère en bois dans la crème anglaise, et en sortant de la casserole, vous passez votre doigt propre, bien évidemment, dans le sens de la longueur sur la cuillère, et si la crème reste en haut, hein, donc le passage du doigt, donc si la trace coule, c'est que votre crème n'est pas bonne, si votre trace reste droite, auquel cas, ben, votre crème est cuite. Donc, encore une fois, si elle n'est pas assez cuite, mais ça va très très vite avec la maïzena, donc ça m'étonnerait que le test de la cuillère, vous ayez à recuire derrière. Franchement, faites attention à ça. Bien, donc l'important, c'est de repasser au chinois, parce que toutes les petits grains de l'œuf ou de la maïzena, bon, vont rester dans le chinois, et comme ça vous aurez quelque chose de bien lisse. Vous mettez ça dans une saucière ou dans un bro, ou dans une bouteille, comme vous voulez, au frigo, et au moment de servir le moelleux, ou vous le nappez de votre moelleux, ou vous le mettez à côté, et vous allez voir, c'est un vrai délice. Bien, Nathalie, peut-être nous dire quelque chose sur la crème de petit marron.
De marron.
De marron. Je vais mélanger entre le petit marron, le marron. Voilà. Donc, dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu peux nous raconter sur la crème de marron.
Alors, la crème de marron, c'est une crème qui a été inventée en 1885 par l'industriel Clément Faugier. Je crois que c'est celui qu'on trouve le plus dans les grandes surfaces, qui cherchait à récupérer les brisures de marron glacé créé accidentellement lors de la production, et les débris de marron glacé sont récupérés et reconfiturés avec des châtaignes épluchées et cuites et de la vanille. La crème de marron est donc une confiture de châtaignes aux débris de marron glacé et à la vanille. Alors, durant l'occupation allemande en France, je rappelle les dates, hein, 40-45, le rationnement était sévère et la France livrée au pillage au profit de l'Allemagne et principalement de la Wehrmacht. Mais les Allemands qui ne se préoccupaient pas de la valeur nutritive de la châtaigne ardéchoise, L'industriel Clément Faugier a eu l'idée de continuer sa production en contournant les tickets de rationnement. Alors, il préparait la crème de marron qu'il commercialisait en pharmacie sous le nom de Génovitine, qu'il faisait passer pour un fortifiant et qui était délivrable avec l'ordonnance d'un médecin. La Génovitine n'était autre que la crème de marron additivée de quelques excipients inoffensifs. Hein. Et pour les habitants des grandes villes dont la situation alimentaire est bien plus dure que celle des paysans des campagnes, c'était un réconfort apprécié, en particulier pour les enfants et les adolescents en pleine croissance.
Et oui, donc on apprend plein de choses. Quand...
C'est
incroyable, hein. Ouais. C'est incroyable. Comme quoi la crème de marron, elle date pas d'aujourd'hui et... c'est toujours valable maintenant, hein. Donc pour les enfants, la crème de marron, elle est pleine de nutriments qui sont importants pour la croissance des enfants. Voilà, et des adultes bien évidemment, même si on a fini la croissance, mais Nathalie, tu as toujours besoin de croissance, toi.
Oui, mais c'est
pour ça. C'est pour ça que tu aimes ça.
C'est un réconfort. Hein.
Alors, on arrive déjà à la fin de notre émission, comme quoi ça passe super vite. Moi, j'ai été ravie d'avoir pu vous donner encore différentes recettes, bien sûr. Ces recettes sont à partager, à faire et à refaire entre amis, en famille. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour.
Comme dirait Patrick. Bruel, tu connais cette chanson? Même jour, même heure.
Mais c'était dans 10 ans. C'était pas la
oui,
même.
C'est vrai.
Là, on se retrouve la semaine prochaine quand même. On n'en va pas attendre 10 ans. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, un très bon appétit, une très belle soirée, bien sûr. Surtout, prenez soin de vous et puis on vous embrasse. Bonne soirée.
Bonne soirée.